Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour Culture Média. Au menu, vous le savez, 2 heures de médias et de culture au sens large et même très large. Tous les médias, toutes les formes de culture. Avec aujourd'hui des conseils de lecture. Il y avait le prix Goncourt, le prix Renaudot. Et focus sur un phénomène, ça n'a rien à voir. Call of Duty, il s'agit évidemment de jeux vidéo. Notre info média, ce sera avec Isabelle Clarke et Daniel Costel, les réalisateurs d'Apocalypse, la guerre des mondes, une série de 6 documentaires historiques consacrés à la guerre froide. À voir dès ce soir sur France 2. Question qu'on va leur poser, comment fait-on le tri dans pas moins de 700 heures d'archives? Le résultat est impressionnant. Et puis Gilles Boulot, présentateur du 20h de TF1, le JT le plus suivi d'Europe, il diffuse ce soir dans 20h Le Mag une interview exclusive de Michel Platini. Et c'est un événement car sa parole n'était pas libre, celle de Platini, mise en quarantaine du monde du football à cause d'affaires de corruption à la FIFA. Lui, en revanche, sa parole est totalement libre. François Morel, le comédien, s'attaque à un monument. Il reprend sur scène les textes de Raymond Devos, disparu en 2006. Et comme il le dit lui-même, au paradis, les anges sont aux anges. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Comme tous les jours, on démarre avec Pierre Desereaux de Pure Média. Bonjour Pierre.
Bonjour Philippe.
Ce sont les audiences télé. Qu'est-ce que les Français ont regardé à la télévision hier soir?
Alors hier, il y a un joli coup d'à-coude entre TF1 et M6. Et c'est TF1 qui est parvenu à se classer en tête d'un cheveu, en tête des audiences de la soirée grâce à un nouvel épisode de Camping Paradis, sa série française portée par Laurent Wauquiez.
Vous faites rire tout seul.
Oui.
Il n'y a même pas de vanne, le gars rigole.
Un épisode...
J'attends la vanne.
Moi aussi. Un épisode qui s'intitulait Mariage au paradis et qui a été suivi par 3 600 000 fidèles, 16,4% du public. Ouais. En deuxième place, on retrouve M6 avec un nouveau numéro de L'amour est dans le pré, l'émission présentée par Karine Lemarchand. Et ce sont 3 500 000 amoureux. 500 000 amoureux.
Ouais.
16,3% du public qui ont suivi cette 10e soirée de L'amour est dans le pré. C'est en hausse sur une semaine.
Ouais.
France 2 est 3e avec un bon score. France 2 qui propose la suite et la fin de la série française fantastique La Dernière Vague avec David Kamenos et Lola Devers. 3 100 000 personnes ont suivi le dénouement de cette série. 14% de part d'audience, c'est un score parfaitement stable sur une semaine. Et au pied du podium, c'est France 3 avec un nouveau numéro de Secret d'Histoire, le magazine présenté par Stéphane Bern. Secret d'Histoire qui s'intéressait depuis Versailles au mystérieux chevalier Déon.
Et sur les autres chaînes, qui dépasse le million?
Alors, je vous ai pas encore donné le score de France 3.
Ah, pardon.
L'histoire du chevalier Déon, ce célèbre espion de Louis XV, a passionné 2 400 000 curieux, 10,7% de part d'audience. Secret d'Histoire qui est en forte hausse sur une semaine. Et du côté des autres chaînes, c'est W9 qui tire son épingle du jeu avec une rediffusion du film Des mineurs. C'était l'Oscar 2010 du meilleur film. 1 million de téléspectateurs, 4,6% de part d'audience.
Et Pierre voulait également nous dire un mot des audiences du mois d'octobre.
Oui, le mois d'octobre s'en est allé et déjà novembre s'est avancé. Et du côté des audiences, la grande gagnante du mois se nomme Arte. La chaîne franco-allemande a signé son meilleur mois historique avec 2,8% de part d'audience en octobre. Arte qui a notamment pu compter sur le carton de ses soirées cinéma dont on parle souvent ici chaque matin. Entre autres succès, on pourra rappeler Amen de Costa Gavras, le western L'Homme de la Plaine ou encore Dans la brume électrique de Bertrand Tavernier. Près de 2 millions de cinéphiles pour ce film.
Et je le rappelle ici le jeudi, Arte a le droit, contrairement aux autres chaînes, de passer des films de cinéma le mercredi.
Voilà, et j'ai aussi France 5 qui peut aussi avoir le sourire en octobre. Elle a réalisé un excellent mois, le meilleur mois d'octobre de son histoire, avec 3,7% de part d'audience. La chaîne de la connaissance et du savoir a pu compter sur les performances records de ses rendez-vous quotidiens comme C'est à vous ou Allô Docteur. France 5 qui a aussi connu de beaux succès en prime avec Échappée Belle, le doc stupéfiant de Léa Salamé ou encore la soirée de Michel Simès consacrée au sommeil. Enfin, un dernier petit mot pour vous dire que TF1 était leader avec 20,1% de part d'audience, mais à son plus faible niveau historique pour un mois d'octobre, toutefois en progression par rapport à septembre. Enfin, avec 9,2% de part d'audience, M6 a réalisé son plus faible mois d'octobre depuis plus de 25 ans, tandis que sa petite sœur W9 était au plus bas depuis 2008.
Voilà, et tandis que Cyril Lacarrière, avec beaucoup de camaraderie, vous montrait sa montre. Merci beaucoup, Pierre Desereaux.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
C'est à vous, Cyril. Bonjour, l'actu des médias.
Bonjour, Philippe Vandel. Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Le sommaire de de votre journal.
Au menu, la 33e édition du Téléthon Centre France qui renonce au sondage des combattantes sur France 5, Canal qui décline l'Olympia et une info toute chaude concernant Disney Plus en France.
La 33e édition du Téléthon aura lieu les 6 et 7 décembre prochains, un week-end qui va mobiliser une nouvelle fois les antennes de France Télé.
France Télévisions qui a présenté hier son dispositif complet. En tout, ce sont plus de 30 heures de programme qui seront consacrées au Téléthon. Sophie Davant et Nagui seront à la présentation. Sophie Davant est une des figures de ces grandes émissions caritatives sur le service public. Louise Bernard lui a demandé en quoi ce rendez-vous était encore important pour France Télé.
On peut s'enorgueillir à France Télévisions de créer un événement national qui crée du lien social. Ça permet aux gens de se retrouver, de faire d'œuvrer ensemble et de travailler ensemble pour une cause qui les concernera à terme aussi, puisque les progrès de la recherche sur ces maladies rares rejaillissent sur des maladies plus communément répandues.
Aux côtés des animateurs, il y a toujours un parrain. Et cette année, c'est le comédien Jean-Paul Rouve qui aura la lourde charge d'assurer ce rôle. Il nous explique pourquoi il a accepté la proposition de France Télévisions.
Pourquoi j'ai accepté c'est plutôt comment peut-on refuser, hein, plutôt, je dirais. Parce que déjà, c'est un honneur, c'est une fierté, c'est une responsabilité. Moi, je suis le Téléthon depuis toujours. Quand ils m'ont proposé, j'ai dit oui, avec grand, grand plaisir. Après, je suis pas dans l'esprit de me dire... Attention, on va battre des records, des dons. Enfin, ça ne veut rien dire, ça. Il faut être là pour expliquer et puis pour donner de la joie et pour donner de la bonne humeur. J'ai l'impression que le parrain, il est là pour être une vitrine qui rassemble.
Le 33e Téléthon, c'est le 6 et 7 décembre prochain. Et bien sûr, nous aurons l'occasion d'en reparler ici dans Culture Média.
Avec les élections municipales qui approchent, va revenir une question qui revient souvent. Faut-il publier ou non des sondages ?
Une question à laquelle le groupe Centre France répond non. Le groupe qui édite notamment La Montagne, La République du Centre ou Lyon Républicaine a publié hier une charte avec une série d'engagements en vue des prochaines municipales. Et parmi eux, le choix de ne commander aucun sondage pour ces scrutins. On va écouter Sandrine Thomas, la directrice des rédactions de Centre France et par ailleurs rédactrice en chef de La Montagne. Elle nous explique les raisons de cette décision. Elle est interrogée par Alexandre Omar.
Par des expériences malheureuses lors des dernières élections municipales, notamment en 2001 et en 2008, avec des sondages qui avaient été commandés sur des villes moyennes et sur des échantillons malheureusement trop faibles et avec des résultats peu fiables, nous avons obtenu sur de ces sondages des pronostics qui étaient rigoureusement à l'inverse du verdict à la sortie des urnes. Pour aborder ces élections municipales, nous avons plutôt choisi de privilégier et de placer le reportage, le terrain et l'humain au cœur de notre démarche éditoriale pour faire remonter les attentes. Nous l'avions déjà expérimenté en 2017 pour la présidentielle à travers une itinérance qui avait été baptisée Mon Journal en campagne et qui nous avait permis de sentir à l'époque que ce serait une élection à venir un peu chamboule-tout.
On se souvient que lors de la présidentielle de 2017, le Parisien, aujourd'hui en France, avait également décidé de ne plus commander d'enquête d'opinion pour, je cite, « se concentrer sur le journalisme de terrain ». Le Quotidien voulait également éviter le côté course de chevaux. Vous savez, les petits chevaux qui courent les uns après les autres, savoir comment ils se classent et qui implique évidemment la publication régulière de sondages.
Cyril, ce soir sur France 5, documentaire de quelqu'un que les auditeurs d'Europe 1 connaissent très bien, Olivier Delacroix.
Comment combattre le déterminisme social? C'est la question que se pose Olivier Delacroix et sa co-réalisatrice Katia Maxime dans leur série documentaire intitulée Les Combattantes. Après avoir parlé des femmes qui vivent dans le 93 et de celles installées dans les régions les plus touchées par la précarité, cette fois l'histoire s'intéresse aux femmes bien nées. Comprenez, celles qui n'ont aucun problème d'argent, qui suivent des études et évoluent dans un milieu familial stable. Mais ce n'est pas pour autant qu'elles sont épargnées par cette question du déterminisme. Écoutez justement ce qu'en dit Olivier Delacroix. Il est au micro de Louise Bernard.
Il m'a semblé important d'aller voir de l'autre côté, là où on s'imagine facilement que les femmes qui naissent dans des milieux nobles, des milieux bourgeois, s'en contentent, alors que non, pas du tout. Là encore, dans ces milieux, il y a des règles, il y a une éducation très stricte, il y a une religion qui est très présente. Et là aussi, nous avons des femmes donc qui disent non à tout ça et qui sont éprises de liberté, qui ont envie d'être maîtresses de leur destin.
Pour illustrer ce que vient de nous dire le réalisateur, je vous propose d'entendre un court extrait du documentaire de ce soir. Il s'agit du témoignage de Diane qui a fait le choix d'épouser un homme issu d'une autre classe sociale, pas franchement du goût de ses parents.
C'est Hiroshima, comme si on les avait giflés. Et je vous avais dit, le réflexion de mère qui était effroyable. Oui. Ces gens-là, on couche avec, on les épouse pas. C'est horrible.
Ces gens-là, on couche avec, on ne les épouse pas. Le témoignage de Diane, une des combattantes que vous pourrez retrouver ce soir dans le documentaire. Elles ont brisé les codes sur France 5 à partir de 20h50.
Du nouveau du côté de Canal+, une nouvelle cérémonie et une nouvelle chaîne.
Du Olympia, en veux-tu, en voilà. Canal+ a annoncé hier deux déclinaisons du nom de la célèbre salle de spectacle parisienne que détient Vivendi, l'actionnaire de Canal+, les Olympia Awards et Olympia TV. La première, vous l'avez compris, c'est une cérémonie qui se déroulera à l'Olympia, qui sera présenté par Antoine Decaune, également maître des cérémonies au César à ses heures perdues, et le tout retransmis en direct et en prime time sur C8. 6 prix au total pour ces Olympia Awards, avec une nouveauté, les internautes pourront prendre part au vote avant la cérémonie et même en direct pour choisir leur concert de l'année. Quant à Olympia TV, ce sera une chaîne entièrement dédiée au spectacle, avec chaque jour un genre différent, du théâtre, des concerts, du cirque même, de l'opéra, il y en aura pour tous les goûts. Notre journaliste Louise Bernard est allée hier à la présentation de ce nouveau dispositif. Elle a demandé à Jean-Marc Jurami, le directeur général adjoint antenne et programme Canal+, c'est long comme titre, ouais, quel rôle jouent ces types de nouveautés ?
Quand on fait quelque chose, on se demande toujours soit ça fait venir des nouveaux abonnés, soit ça fidélise nos abonnés actuels, soit ça améliore l'image de marque de Canal+, en général, on fait de l'image. Là, en l'occurrence, je pense qu'on coche peut-être les trois cases. En tout cas, c'est sûr que ça va fidéliser. On est persuadé que pour nos abonnés, c'est un service qu'on leur rend. On a une partie de nos abonnés qui est en province, qui n'a pas accès au monde du spectacle. On va leur ramener le spectacle chez eux, on leur ramène l'Olympia à la maison.
L'Olympia TV, ça commence le 21 novembre et attention, ça ne sera disponible qu'en soirée.
Et puis Cyril, pour terminer ce journal, une info toute chaude, on sait désormais comment nous, Français, pourrons accéder à Disney+.
Il leur faudra passer par Canal+. C'est une info de notre confrère Jamal Eni de la lettre A. Canal+ et Disney sont en négociation très avancée pour que Canal soit le seul distributeur français de la nouvelle offre de vidéos à la demande par abonnement Disney+. Comme dans le cadre de l'accord noué avec Netflix, Disney+ pourrait être intégré à l'option série cinéma pour une poignée d'euros supplémentaires. Toujours selon la lettre A, Disney+ devrait également être proposé directement sur Internet. Avec cet accord, Canal s'impose en tout cas plus que jamais comme la plaque tournante des contenus en France. Quant à Disney+, je vous rappelle que le service sera lancé dans pile une semaine aux États-Unis et pas avant le printemps prochain en France.
Merci beaucoup Cyril Lacarrière. Rendez-vous demain pour un nouveau journal des médias.
À demain.
Dans l'info média du jour ce matin, on parlera de la série documentaire de Daniel Costel et Isabelle Clarke, Apocalypse, la guerre des mondes de 1945 à 1911, avec les trois premiers épisodes diffusés ce soir sur France 2. Culture Média revient juste après ça sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Et c'est l'heure, Philippe, de l'info média du jour.
Dans 4 jours exactement, le 9 novembre, le monde va célébrer le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. 155 km de long, l'oublie souvent, 3,60 m de haut, symbole de la séparation entre deux mondes, l'Ouest sous domination américaine et l'Est communiste sous domination soviétique. Un rideau de fer qui, en tombant ce jour-là, va mettre fin à près de 40 ans de guerre froide. Et à l'occasion des commémorations de la chute du mur, Apocalypse revient en 7e saison sur France 2. Après s'être penchée sur les deux grandes guerres mondiales, sur Hitler et Staline et puis sur la boucherie de Verdun, la série historique culte fait son retour avec Apocalypse, la guerre des mondes, pour retracer ce conflit larvé, cet équilibre de la terreur, la guerre froide. Au programme, 6 documentaires de 52 minutes diffusés lors de 2 soirées exceptionnelles ce soir à 21h avec la diffusion des 3 premiers épisodes et mardi prochain 12 novembre avec les 3 suivants. Les ingrédients qui ont fait le succès de la marque sont toujours là, 700 heures d'archives exhumées, restaurées, colorisées, c'est important, des petites histoires de femmes et d'hommes qui racontent la grande histoire. Mais comment retracer ces 46 ans qui ont failli faire vaciller la planète? Comment, sur les cendres du retour à la paix, sont apparus les germes d'un affrontement entre deux conceptions politiques, économiques et philosophiques de l'humanité? Pour répondre à ces questions, je reçois les deux réalisateurs, Isabelle Clarke, bonjour.
Bonjour.
Et Daniel Costel, bonjour Daniel.
Bonjour.
Question à tous les deux, vous incarnez le documentaire historique de référence sur France Télévisions, je l'ai dit avec votre patte. Vous êtes donc attendu au tournant avec ces numéros consacrés à la guerre froide. Est-ce que cela a été plus difficile à concevoir que les précédents numéros sur les deux grands conflits mondiaux? Daniel ou Isabelle? Daniel Costel.
Je crois qu'il faut déjà enlever le mot documentaire.
D'accord.
Au profit du mot film,
d'accord,
cinéma. On a toujours essayé, d'ailleurs c'est pour ça que ça a marché depuis 10 ans, n'est-ce pas ? C'est que les gens d'un seul coup ont vu quelque chose qui est, alors je ne sais pas, je vais employer des mots qui sont peut-être auto, promotion, ça ouais. sert, mais je le crois fortement. Je crois que c'est une saga, c'est une, ça utilise, si vous voulez, les codes, j'allais dire entre guillemets, du documentaire, mais j'aime pas du tout cette idée. D'abord, on a supprimé quelque chose de très important, qui est toute forme d'interview.
D'accord.
Et dites-moi, vous savez, c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus cher pour les producteurs de ne pas avoir d'interview.
Évidemment, parce qu'une interview, il suffit de mettre une personne dans une pièce et de faire tourner une
Absolument.
Caméra.
Absolument. Et puis, d'un autre côté, ça nous oblige à une espèce d'invention permanente et pour montrer des choses.
Je peux me permettre de vous contredire et vous faire un compliment. Pour avoir vu vos séries et les apprécier énormément, vous savez, quand quelque chose est faux, quand on essaie de vous raconter des sornettes, on vous dit c'est du cinéma. Or là, quand je regarde vos docs, on a l'impression que tout est vrai. Et c'est ça qui est fascinant.
Non mais attendez, tout est vrai, effectivement tout est vrai. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vautours autour d'une proie.
Non, seulement dans Lucky Luke.
Ah, écoutez,
non, mais Daniel parle de cinéma parce qu'on emprunte les codes du cinéma.
J'ai bien compris.
C'est l'exigence sonore du cinéma. L'image est à la hauteur, d'ailleurs, pour être projetée au cinéma.
Ouais.
Et le souffle du récit est plus proche du cinéma que du documentaire.
Justement, puisque vous parlez...
Je voulais quand même parler des vautours, là.
Ah, finissez sur les vautours, vous avez raison.
Les vautours. Nous avons un collège d'historiens.
Oui.
Alors, ils ont tous été choisis parce que c'est les meilleurs, etc. Et ils représentent l'armée, la guerre, les relations internationales, etc. C'est des immenses pointures, si vous voulez. Alors, chaque fois qu'on écrit un commentaire, on leur donne le commentaire. Et là, c'est les vautours. C'est-à-dire que, attention, cette phrase, le mot n'est pas tout à fait juste, tout ça. Vous savez... Sur le plan historique, on est blindé de jets blindés.
Là, on a 4 conseillers historiques, donc ça a été validé 4 fois.
Alors, justement, vous parliez de récits. Comment vous orchestrez la dramaturgie? Comment arriver à faire tenir ce souffle sur 6 fois 52 minutes?
C'est notre couple. C'est né de je pense à Apocalypse, c'est né de notre amour. On vit ensemble depuis 30 ans.
On est mariés, hein, il ne faut pas vous croyez des choses. Hein.
Et on prend un bonheur fou dans la salle de montage à s'épater. Notre secret, je pense, c'est savoir regarder pour trouver les mots pour raconter. Rentrer dans l'image, ne jamais constamment aller au-delà des apparences. Donc les choses s'imposent et voilà comment on fait.
Et en même temps, alors je vais le dire, il y a un procès de narration, c'est vous raconter plein de petites histoires qui forment toutes empilées, comme un millefeuille, la grande histoire.
Voilà, mais ce qui nous pousse, c'est aussi l'envie de susciter chez les jeunes générations ou les moins jeunes, l'envie de découvrir, de s'approprier leur histoire, de les rendre curieux. Voilà, c'est ça qui nous pousse en fin de compte, c'est cette énergie-là.
Alors nous le sommes, nous avons cette énergie, nous sommes curieux, on en parle juste après cette petite pause.
Dans l'infomédia du jour, on parle ce matin des films de la saga de Daniel Costel et Isabelle Clarke, Apocalypse, la guerre des mondes de 1945 à 1911. Les 3 premiers épisodes sont diffusés ce soir sur France 2. On y revient avec eux dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Retour à notre infomédia du jour où on parle du programme Apocalypse, la guerre des mondes, diffusé sur France 2, écrit et réalisé par Daniel Costel et Isabelle Clarke, qui sont nos invités ce matin, Philippe.
On a un peu parlé de la manière de travailler, on va y revenir. On a parlé du ton, on a parlé des images qui ont été colorisées. Je voudrais qu'on entende un extrait pour situer l'ambiance sonore. C'est une des signatures vocales d'Apocalypse, c'est la voix off de Mathieu Kassovitz.
Devient la vraie menace. Les scientifiques américains inventent alors une échelle de mesure du danger de guerre nucléaire qu'ils appellent l'horloge de l'apocalypse. Si les aiguilles fatidiques atteignent minuit, ce sera la grande catastrophe. Cette horloge symbolique sera souvent à minuit moins 5.
C'est la voix de Mathieu Kassovitz, mais c'est évidemment vous qui avez écrit le texte. Je vais en venir à la fabrication hors norme, titanesque de ces documentaires. Je l'ai dit, 700 heures d'archives à exhumer, à visionner, qui viennent du monde entier. Comment vous avez procédé?
On a lancé le projet il y a 10 ans. Donc voilà, c'est la recherche a couru, pardonnez-moi, pendant 10 ans. Les images nous arrivent, c'est titanesque, c'est vertigineux, et en même temps on a des armes, parce qu'on a des moyens, on a un producteur qui nous donne des moyens, on a une équipe de monteuses à France Télé formidable, qui commence à rassembler.
Mais comment vous faites pour ne pas passer à côté de la pépite?
C'est ça, c'est une organisation.
Daniel fait non de la tête. Vous êtes passé à côté de pépite, Daniel
non,
Costel
jamais.
Non, jamais.
Non, on passe pas. Parce qu'on a une capacité aussi à visionner, à en accélérer, à voir, à s'arrêter, à revenir. Et puis on est aidé aussi.
Comment se prémunir de mal interpréter une archive, de se tromper sur la date, sur le pays, sur la provenance? Comment est-ce qu'on peut...
Je vous ai parlé des vautours tout à l'heure. Oui. C'est la même chose.
Ils sont là.
Ils veillent. Mais de toute manière, les documents nous arrivent avec déjà des renseignements.
Oui, mais qu'on vérifie, et puis après, donc c'est vérifié par nos historiens, et lorsqu'on remet en couleur, c'est à nouveau vérifié. Donc il y a constamment des... Non, on ne peut pas se tromper.
Sans spoiler les docs que vous avez eus, quelles sont les archives qui vous ont le plus bluffé, scotché, pour parler français?
Je crois qu'au début du film, l'espèce de jeu de chaise musicale entre Staline, Truman et Churchill est quelque chose qui nous a complètement bluffé. Je crois que c'est vraiment un truc à Isabelle, ça. Il y avait... En fait, ça n'existait pas. C'était une fin de bobine, vous voyez.
Ouais.
C'est vrai que c'est l'esprit coulisse. Ce qui nous bluffe toujours, c'est toujours ce qu'il y a en plus. C'est Khrouchtchev dans sa datcha, c'est Johnson au bord de sa piscine, le président des États-Unis, c'est Kennedy qui joue avec un jouet, avec un hélicoptère, c'est la guerre du Vietnam. Enfin voilà, on est constamment surpris.
Daniel Costel.
Vous voyez, je disais qu'il s'agissait d'un document préparatoire à la fameuse photo où on voit les trois grands assis.
Bien sûr.
Mais là, il y a un problème pour s'asseoir.
Ouais.
Alors, en réalité, c'est un document qui n'aurait jamais dû survivre, qui aurait dû être mis à la poubelle tout de suite. Mais si vous voulez, ça veut dire que... Je ne sais pas si c'est une bonne façon de parler de ça. Isabelle va certainement m'assassiner. Mais je crois qu'on est en face de quelque chose... C'est terrible comme histoire, mais c'est aussi le grand bêtisier de l'histoire. C'est-à-dire tout ce qui n'a pas été montré, tout ce qui a été échappé à la voracité des historiens, etc. Là, notre truc à nous, c'est de découvrir.
Alors, en parlant d'historiens, après la diffusion du premier Apocalypse, il y avait quelques voix qui s'étaient élevées pour dénoncer le traitement par vous de l'histoire, un discours que disaient certains un peu réactionnaire, notamment une manière indulgente de présenter le régime de Vichy et sa responsabilité dans la déportation de Juifs de France. Comment aviez-vous pris ces critiques et est-ce que vous avez retenu une leçon, si tant est qu'il y ait une leçon à recevoir?
Ah non, attendez, on
pas,
est plutôt...
J'ai pas la mémoire de...
Nous, on se situe plutôt d'extrême-gauche, je veux dire. Et on n'a jamais, je vois pas, où on a été complaisant dans le régime de Vichy, qui est un régime épouvantable. Mais cela dit, on est justement en train de travailler actuellement sur un autre apocalypse, celui qui commémore en 2020 l'an 40, et là, ça va être saignant, très saignant pour Vichy.
2020, ce sera sur Hitler, c'est ça, votre prochain doc?
C'est ça, Hitler attaque à l'Ouest.
Alors, c'est la crise de l'audiovisuel, je vous apprends rien, le service public est obligé, sommé même, de faire des économies, c'est la tutelle qui lui demande ça, et vous avez des moyens quand même assez grands. Comment réussissez-vous ce tour de force? Si j'ai bien compté, 7 millions d'euros, ça fait 1 100 000 euros pour un doc de 52 minutes, c'est 10 fois plus que la moyenne.
C'est le prix de la fiction, hein, ouais, à peu près. Mais c'est un projet un peu atypique, je vous dis, parce qu'il est parti il y a 10 ans, donc ça, c'est un projet cher. En même temps, il y a un apport en industrie de France Télévisions, puisque tout se fait à France Télévisions, donc ça fait baisser la note. Et puis, il y a énormément de ventes à l'étranger.
Ah, je vais le dire, Apocalypse, c'est la deuxième série française la plus vendue dans le monde.
Après Pif le chien.
Hein. Oui, en fait, ça, c'était pas à peine de le dire.
Si, il l'a dit. Toute information est bonne à prendre. J'étais sur Lucky Luke, il est sur Pif le chien. Pour dire que ça se prend pas au sérieux, mais c'est tellement... Il y a un tel souffle dans tout ce que vous faites. Comment vous prenez tous ces compliments qu'on vous fait toujours?
Non, mais attendez, je vais vous dire. L'idée, si vous voulez, de cette réalisation, je parle de la première. D'abord, il faut expliquer pourquoi on a mis 10 ans.
Il nous reste 30 secondes, Daniel Costel.
On a mis 10 ans parce que chaque fois, France Télévisions nous demandait de faire plus tôt 14-18, Verdun, etc. Ouais. Alors, ça a été repoussé, si vous voulez. Voilà.
D'accord, j'ai bien compris.
Non, ce que je voulais dire, c'est comment on prend les compliments. C'est très, très rassurant, mais je pense que Daniel a eu beaucoup de chance de me rencontrer. Moi, j'ai eu beaucoup de chance de le rencontrer. Et qu'ensemble, on produit de l'énergie et je pense qu'on diffuse aussi ça.
Et nous, on a beaucoup de chance de vous avoir reçu ce matin en direct sur Europe 1. Merci beaucoup. Merci à vous deux, Isabelle Clarke et Daniel Costel, réalisateurs de Apocalypse, La guerre des mondes, une série de 6 documentaires historiques. C'est consacré à la guerre froide. On peut les voir ce soir à 21h10 sur France 2. Et les 3 autres épisodes mardi prochain, évidemment, c'est en podcast sur le site de France Télévisions. Et je précise que toute la semaine, Europe 1 va célébrer les 30 ans de la chute du mur de Berlin avec sa création Derrière le mur. C'est en podcast sur le site europe1.fr. Pardon. Merci encore à vous deux d'avoir été ici avec nous.
Merci. Numéro spécial de 20h le mag sur TF1 ce soir avec Gilles Boulot qui accompagne Michel Platini à Jeuves, sa ville natale. Gilles Boulot sera dans Culture Média pour nous raconter les coulisses de cette rencontre dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Et on est ravis, Philippe, d'accueillir Gilles Boulot dans Culture Média.
Exactement. Bonjour Gilles Boulot.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Mesdames, Messieurs les titres, vous êtes le présentateur du 20h de TF1, le journal télévisé le plus suivi d'Europe, avec près de 6 millions de téléspectateurs chaque soir. Et depuis mars 2018, votre JT est suivi par le 20h Le Mag, une partie magazine davantage feel good. Et là, ce soir, un événement dans le 20h Le Mag, justement, interview exclusive de Michel Platini. C'est un événement car sa parole n'était pas libre, il a été condamné, il ne pouvait plus ou il ne voulait plus parler. Tout d'abord, quelle est la situation juridique actuelle de Michel Platini ?
Alors, sa situation juridique est simple. C'est un homme libre de parole et qui a été blanchi par la justice. Alors, la justice française s'est jamais mêlée de ça, de cette histoire de FIFA. Mais il était blanchi par la seule justice qui aurait pu le poursuivre, qui est la justice suisse. Donc, il est comme vous et moi, innocent.
Il était quand même, il faut le dire, interdit de stade.
Il ne pouvait plus mettre. C'est lui qui avait mis sur pied le fameux championnat d'Europe de football en France. Ouais. Et il n'a pas pu remettre la coupe alors qu'il s'était battu pendant des mois pour que ce championnat ait lieu en France. Donc, et c'était un homme blessé, ouais, blessé évidemment.
Alors je me demandais s'il l'est toujours justement, si l'imparfait va devenir de l'indicatif et du présent. Michel Platini sort un livre et vous avez décidé, Gilles Boulot, de faire un portrait de lui, mais pas de manière classique, pas une interview en plateau. Vous êtes retourné dans la petite ville de son enfance, Jeuf. Qu'avez-vous découvert ? Comment ça s'est passé ?
Bah, j'ai découvert plein de choses. D'abord, j'ai découvert Jeuf, où je n'avais jamais été. Et où vous, Philippe, vous n'êtes jamais allé.
Jamais. C'est à côté de Nancy, c'est tout ce que je sais, parce que j'étais fan de foot.
Centre Metz et Nancy. Ben, moi, j'adore l'art du portrait. J'en ai fait pendant de longues années comme reporter. Et je pense que pour comprendre les gens, il faut aller là où ils ont grandi. C'est Sigmund, quoi. C'est ouais. Freud. Donc voilà, racontez-moi votre enfance. Et au lieu de la raconter devant un micro, eh ben, on retourne à Jeuf. Ben, Jeuf, donc, c'est une ville sidérurgique dominée par le château des Vendelles. Et ouais. Puis les prolétaires sont en bas.
Je précise que les Vendelles, ce n'est pas les miens, ça s'écrit W-E-N.
Non, oui, oui, c'est les maîtres de forge.
Exactement.
Et arrivent dans les années 20 les Polacs et les Rital.
Les Polacs, ce n'est pas Michel Polac, c'est les Polonais.
Les Polonais et les Italiens. Ouais. Et ça a marqué Platini. Son grand-père arrive du nord d'Italie, il ouvre un café. Et voilà, et c'est là que vit la famille Platini, c'est là qu'il grandit, au-dessus du café, dans le petit deux pièces cuisine avec sa sœur. Et puis après, dans une autre maison, un petit peu plus grande. Et c'est là qu'il commence à jouer au foot.
Qu'avez-vous découvert de Michel Platini que vous ne sachiez déjà ?
J'ai découvert à quel point il était adoré par les gens de Jeuf. L'ascension sociale, c'est Platini. Ouais. Tu es des nôtres. Ouais. Et donc ça, c'était formidable. J'ai découvert quelqu'un qui, à mon avis, est assez secret. J'ai découvert quelqu'un qui demandait systématiquement l'avis de sa femme et de ses enfants avant de prendre des décisions ultra importantes. J'ai découvert quelqu'un d'intelligent. Je savais que c'était un politique. Et puis moi, je suis gêné parce que je ne suis pas censé avoir de l'empathie ou de l'antipathie. Je ne suis pas son procureur, ni son greffier, ni quoi que ce soit.
Ni l'avocat.
Ni son avocat. Mais j'ai une immense admiration pour Platoche.
Alors, on va entendre un extrait. Il est dans la salle de classe de l'école primaire de Jeuf et il répond aux questions des écoliers.
Qu'est-ce qui m'a poussé à faire du football ? Oh ben, je pense Jeuf. Jeuf, ça veut dire ma famille, mon papa, mes amis, la situation économique du moment, les divertissements du moment, il n'y en avait pas beaucoup, il restait le sport, le football, mon papa est entraîneur, Jeuf, le club de Jeuf, les copains, vous savez, là je suis dans une classe, je suis content de vous voir dans la classe, mais où j'étais très performant, c'était surtout la récréation. Un peu comme vous, non? Oui.
Dans quelle mesure il est ému, dans quelle mesure c'est de la communication. Je précise que moi j'ai vu qu'une minute trente parce que vous n'avez même pas terminé le montage. Enfin, vous n'avez même pas. C'est ce soir. Hein,
voilà, à peine. Et le mixage, j'ai pas encore eu le temps de le terminer. Et on va dans l'école primaire. En fait, rien n'a changé. Vous me demandiez à quoi ça ressemble. Rien n'a changé. Il n'y a pas des bars qu'on poussait. Voilà. Y a pas
j'ai posé ma question différemment. Est-ce qu'il a fait de la com? Parce qu'on sait qu'il n'y a rien de plus télégénique et d'empathique que d'être avec des enfants. Souvenez-vous, quand il y avait un énorme problème avec les gilets jaunes, Emmanuel Macron était allé faire le JT de Jean-Pierre Pernaut dans une salle de classe.
Mais c'est notre idée, l'école. Oui. Allez, on voulait repartir.
Mais là aussi, c'est la même idée.
Mais c'est notre idée de dire, ok, est-ce qu'on peut aller à l'école où était Platini, l'école des garçons? Est-ce qu'on peut aller dans le bar qui était tenu par ses grands-parents et par sa mère? Et est-ce qu'on peut aller au stade, non pas Michel Platini, mais Aldo Platini? La personne du père de Platini qui l'a formé, etc.
Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que ce n'est pas de la com, justement? Parce qu'on ça rend quiconque sympathique.
Libre à lui de se dire... mon Michel, faut pas te planter, hein. T'es sur TF1, voilà. Et libre à nous de faire ce qu'on de faire qu'on veut, de poser les questions qu'on pose.
Alors ça, c'est les séquences que j'ai vues. J'ai pas tout vu. Vous allez me raconter. Vous restez avec nous, Gilles Boulot.
Gilles Boulot est l'invité de Culture Média pour nous parler de ce numéro spécial de 20h Le Mag diffusé ce soir sur TF1 où il accompagne Michel Platini en Meurthe-et-Moselle dans sa ville natale de Jeuf. On continue à en parler dans un court instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Rencontre à domicile pour le triple ballon d'or Michel Platini qui a choisi de se confier aux équipes de TF1. Il sera dans sa ville natale à Jeuf ce soir pour 20h Le Mag avec notre invité Gilles Boulot, Philippe.
Alors on l'a dit, Michel Platini a une histoire personnelle particulière à cause de ses déboires judiciaires qui sont maintenant derrière lui. Il n'avait plus le droit d'aller sur un terrain de foot. Moi j'ai vu une toute petite partie de l'interview mais j'ai pas tout vu. Est-ce que vous lui avez posé toutes les questions? Est-ce que vous l'avez interrogé sur les affaires? Bien et sûr. Sur son ressenti?
Bien sûr, je l'ai interrogé sur son grand copain Blatter. Je l'ai interrogé sur la FIFA et puis je l'ai interrogé sur l'avenir. En fait, l'unique raison pour laquelle on a fait ce reportage avec lui, c'est qu'on est dans l'actu. Donc certes, c'est 20h Le Mag, mais le sujet, il n'est pas en apesanteur. Voilà, il est là parce que le 7 octobre dernier, s'est achevé son bannissement. Il était banni pendant 4 ans. Donc maintenant, c'est un homme libre. Ben, je lui dis, ben, on va interroger un homme libre. Bah
alors,
et puis voilà.
Alors dites-nous, qu'est-ce qu'il fait de nous un petit teaser? Qu'est-ce qu'il dit sur Blatter? Qu'est-ce qu'il dit?
Alors, sur Blatter, il ne dit pas que des choses sympathiques.
Mais j'imagine. Alors, qu'est-ce qu'il dit de pas sympa sur Blatter?
Ah, ben, vous verrez. Non, mais, non, mais on se projette. Vous vous souvenez, Balladur m'a tué.
Oui.
Bon, ben, voilà.
Blatter m'a tué.
C'est pas totalement impossible. Mais non, moi, je voulais me projeter vers après.
Ouais. Et,
c'est quelqu'un.
Attendez,
qui...
avant,
allez-y.
Un mot de fabrication.
Ouais.
Comment ça se passe ce genre de reportage quand les sujets sont très très sensibles? Est-ce qu'on fait un deal avant? Est-ce qu'ensuite la personne interrogée vous demande de couper telle ou telle question parce qu'elle réalise qu'elle est allée trop loin?
Jamais, jamais. Il nous a foutu une paix royale. Mais jamais. De toute façon, il le savait. Jamais je n'aurais accepté. C'est à moi. La prise de tête, la prise de chou, elle est chez moi et avec les équipes. En se disant, est-ce qu'on est équitable? Est-ce qu'on ne met pas trop sous le tapis les ennuis judiciaires de Platini? Est-ce qu'on se projette assez dans l'actu, c'est-à-dire l'après? Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que Platini va se battre à 64 ans pour aller à la tête de la FFF, de l'UEFA, de la FIFA, être l'homme de foot le plus puissant de la planète, ou est-ce qu'il part aux Bahamas sur un transat? C'est ça qui m'intéresse.
Est-ce qu'il vous a convaincu? Lui ressent son bannissement et tout ce qu'il a subi comme une injustice. Est-ce qu'il vous a convaincu, Gilles Boulot?
Ah bah, il n'avait pas besoin de me convaincre pour que je lise la presse depuis de longues années pour savoir que la FIFA c'est une rivière d'or et d'argent et de dollars. Il y a beaucoup d'argent là-bas. En est-il fait bon usage par des gens parfaitement intègres? Peut-être sont-ils tous intègres, je ne sais pas. Donc est-ce qu'il a navigué au milieu de gens totalement intègres?
Mais est-ce que dans les tous non intègres, je comprends très bien votre petit sous-entendu, qui n'est pas si petit d'ailleurs, qui est un très fin sous-entendu, est-ce que vous rangez Platini sur le même bateau?
J'ai pas d'opinion argumentée. J'ai lu son bouquin qui est un plaidoyer. J'ai interrogé les gens qui le connaissent. Moi, je pense qu'il était... Enfin, je vais pas faire de psychanalyse, mais je pense qu'il était dans un univers où il y avait beaucoup, beaucoup d'argent. Et lui, il est mu, c'est vrai, par l'amour du foot. Il adore le foot. Voilà. Après, que s'est-il passé? Moi, je ne sais pas. Lui dit qu'il est innocent. la justice l'a reconnu innocent, malgré les tonnes et les tonnes de papiers, de documents qu'ils ont analysés. Donc, pour moi, juridiquement, c'est un homme innocent.
Et je dois dire qu'il y a une séquence assez impressionnante où il fait tirer des coups francs avec des mannequins devant des buts qui remplacent le mur et il nous met encore des brossés comme à l'ancienne.
Oui, mais j'ai désespéré parce qu'en fait, il a plu énormément avant. Il avait des chaussures comme les miennes, là, je ne sais pas si on les voit, des vieilles baskets. Et les deux premiers, ils n'y arrivent pas. J'ai dit, ah là là, la séquence, ça va pas marcher. Et puis après, c'est magique. Et il n'avait pas fait ça depuis de longues années. Hein.
Est-ce que vous entendez bien avec votre belle-mère ?
Je sais que oui, très bien.
Vous savez pourquoi je vous pose la question ? Parce que vous avez déclaré à Paris Match l'an dernier que quand vous visionnez un sujet avant sa diffusion, la question que vous posez, c'est est-ce que ma belle-mère comprendrait ce qu'on raconte ?
Non, mais c'est Pierre Desgroupes, hein, c'est ça qui parlait de la Mercière de Guéret dans la Creuse.
On peut plus parler de la Mercière.
Ah bon, ma belle-mère ou ma nièce ou la vôtre ou votre cousine ou votre voisin de palier, c'est une personne intelligente, curieuse du monde, à qui on doit expliquer le monde. Donc si ce qu'on dit n'est pas clair, c'est notre faute, pas de la sienne.
Le prix Goncourt, Jean-Paul Dubois était hier aux 20h de France 2. Pourquoi il n'était pas aux 20h de TF1 ? Est-ce que vous ne l'avez pas invité ou est-ce que vous l'avez invité et il a dit non ?
Parce que je suis un immense admirateur de Jean-Paul Dubois. Je pense que le monde se divise en deux.
C'est pas vrai. Je ne m'attendais pas à cette réponse.
Ah ben, vous plaisantez, Monsieur Tanner. Chaque homme qui déménage devrait lire ce bouquin. Et Une vie française, c'est un des plus beaux romans français depuis 20 ans. Donc, si je fais Jean-Paul Dubois, j'aimerais bien le faire un jour. C'est chez lui, à Toulouse, dans 20h Le Mag.
Donc, vous ne l'avez pas invité ?
Pas sous cette forme-là, mais à la Platoche.
D'accord.
L'un à Jeuf, l'autre à Toulouse.
Il y a beaucoup de publicité à la télévision. C'est aussi pour ça que les gens se détournent de la télé, ils vont sur les plateformes, vont sur le replay. M6 et Canal ont annoncé qu'ils allaient réduire la durée de leurs écrans publicitaires qui vont passer à une minute maxi en prime time. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que TF1 va suivre le mouvement de ce que vous savez ?
Alors ça, il faudra demander à mon patron.
Non, vraiment. Mais vous, on vous parle.
Je ne sais pas. Je suis incompétent et ignare en la matière. Je ne sais pas.
Autre opération que vous voulez lancer, il y a une semaine pour l'emploi sur TF1.
Ouais.
Vous voulez en dire un mot ?
Bah oui, bah le grand ordonnateur, ça c'est beaucoup Jean-Pierre Pernaut qui fait ça depuis 4 ans. Et il a permis à des entreprises qui recrutaient à des chômeurs de se retrouver. Et il a à son actif des milliers de gens qui ont retrouvé du boulot grâce à lui. Et donc nous, on s'associe à lui, il y a LCI, il y a la rédac de TF1, on fait des sujets. On va faire un sujet tous les soirs, un long sujet dans le 20h de TF1. Et on est très fiers, on est au service du public.
Merci beaucoup Gilles Boulot. Vous l'avez lu déjà le Renaudot, le Goncourt, pardon ?
J'ai lu les 3 premiers chapitres parce qu'on me l'a disputé chez moi avec ma belle-mère.
Merci Gilles Boulot. Je rappelle 20h Le Mag avec une interview exclusive de Michel Platini. C'est ce soir, juste après le JT de 20h sur TF1. Merci Gilles Boulot. Merci.
Dans un instant, c'est notre heure culture, Philippe, mais juste avant, place aux digressions des rats d'auteur. Votre rendez-vous d'humour dans Culture Média avec le duo Stéphane de Groot et Gilles Gaston Dreyfus.
Gilles Gaston Dreyfus, Gaston Dreyfus.
Toi, c'est Stéphane de Groot.
Toi, tu dis de Groot.
Une vraie question. En France, on dit de Groot.
Oui.
Donc.
Qu'est-ce que vous disiez, du coup ?
Bah, du coup, je.
Rien. Vous voyagez un peu, Gilles ?
Non, je voyage, oui, je vous remercie beaucoup. Vous dites ça comme si c'est ne pas voyager serait une tare. Les gens qui ne voyagent pas et qui sont très bien, hein.
Qu'est-ce que vous en savez ?
Je connais pas mal de gens qui ne voyagent pas.
Ça, c'est l'argument. Je connais des gens.
Non, mais je connais les Anglais. J'étais dans un petit village du sud de l'Angleterre quand
j'étais. Comment s'appelle-t-il ?
Wittering.
Ça n'existe pas.
Si.
J'irais un village de Hollande.
Visiblement, vous n'êtes jamais allé en Angleterre, vous, alors.
C'est pas parce que j'ai pas été à Wittering que j'ai pas été en Angleterre.
Pourquoi vous salissez
Je ne salis pas.
Mon enfance, ma mémoire.
Parce que vous prononcez très très mal Wittering.
Vraiment au Brexit. Moi, je suis pour que les Anglais s'en aillent parce que ça fait trop longtemps que ça dure.
C'est quoi le problème de la durée ?
Il faut que les gens prennent leur responsabilité. Les peuples ont les gouvernements qu'ils méritent.
Vous trouvez que les Anglais méritent d'avoir Boris Johnson ?
Ils auraient pas dû voter pour la sorte.
Mais ils ne savent pas pourquoi il va arriver.
Oui, mais qu'est-ce que vous voulez quand ils découvrent que ça va pas, que Bolsonaro.
Les Brésiliens méritent Bolsonaro.
Bah oui, ils ont voté pour lui.
On peut pas parler de démocratie quand on a 1% d'avance sur l'autre.
Bah, vous êtes une mauvaise foi légendaire.
Mais je suis d'une très bonne foi. Et vous ne voulez pas reconnaître qu'en fait, la majorité, c'est 1%. C'est pas 51% de gens qui votent, c'est 1% de différence.
J'ai pas compris ce que vous venez de dire.
Oui, mais ça, c'est pas
nouveau.
Vous prenez 100 personnes.
Oui.
Il y en a 51 qui votent pour aller à gauche et 49 qui veulent aller à droite. Donc il y a juste 2 personnes qui font la différence.
Eh oui, c'est ça la démocratie.
C'est pas ça la démocratie.
Mais quelles sont vos opinions politiques ? Vous êtes royaliste ?
Je pense qu'on peut se quitter là-dessus et je vous dis à demain.
Écoutez Stéphane, à demain.
C'était les Rats d'auteur avec Stéphane de Groot et Gilles Gaston Dreyfus, feuilleton quotidien que vous retrouvez dès demain 9h55 et en podcast sur Europe 1.fr.
Europe 1 Culture Média.
Culture Média qui continue après le rappel des titres de 10 heures. On va parler culture. Nous recevrons François Morel. Il viendra évoquer son spectacle J'ai des doutes à partir de ce soir à la Scala, spectacle dans lequel le comédien réinterprète avec maestria les grands airs, pour dire les choses, de Raymond Devos. Et puis dans Les Indispensables, il n'y a pas que le Goncourt dans la vie, non. Il y a aussi le tout nouveau prix Renaudot. Il s'agit de La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson. On en parlera avec Nicolas Caro, pardon. Et puis de la littérature, on va passer aux jeux vidéo avec Call of Duty Modern Warfare, un jeu de guerre très réaliste que notre gamer Clément Le Saffre a évidemment testé. Et Clément est formel, c'est moins basique que d'habitude.